La revue de presse, bonjour Claude Oskolovitch.
Bonjour.
Et dans la presse, on parle d'un adolescent ce matin.
Un enfant d'Abidjan, Côte d'Ivoire, qui avait 14 ans et qui avait un rêve et qui en est mort. Et ce rêve, c'était nous, la France. On l'a retrouvé il y a 8 jours, à l'aube du 8 janvier, dans le puits du train d'atterrissage du Boeing d'Air France qui venait de relier Abidjan à Paris Charles de Gaulle. Il était vêtu d'un short et de claquettes. Mais avant cela, il avait vécu. Et Le Monde, sur son site internet, me ramène Laurent Barthélémy Annie Guibaï, élève de 4e au lycée Simon et Yvette Gbagbo, établissement sureffectif du quartier populaire de Yopougon. Laurent Barthélémy, se souvient un ami, s'entraînait à parler français avec l'accent des Blancs, à parler comme nous, pour passer inaperçu en Europe où cesserait pour lui la peur et la misère. Chez lui, il partageait son lit avec un demi-frère et une demi-sœur. Son père était prof de sciences à domicile, mais travaillait si peu. L'année dernière, il avait vu un ami se faire poignarder dans des émeutes étudiantes. Ses notes avaient baissé, il séchait les cours et traînait dans des cybercafés. Il fut sans doute pris par les promesses des passeurs. Mardi 7 janvier, Laurent Barthélémy a pris un sac de voyage avec à l'intérieur une tenue plutôt chic qu'il nous réservait. On a retrouvé le sac sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan quand lui est devenu le petit mort de Roissy auquel son lycée d'Abidjan a rendu hommage lundi, me dit Le Monde. Il est mort en faisant quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Ne tentez pas ce genre d'aventure. Le bonheur se trouve ici, a dit monsieur le directeur. Des élèves ont souri en regardant leur lycée décrépit. Et nous voilà bien avec ce rêve brisé d'un enfant dont l'oubli est repoussé par un article de journal. L'Obs me raconte des pas encore vieillards dont le rêve s'appelle la mort et porte le nom d'un médicament interdit, le pentobarbital, un barbiturique que chez nous, seuls les vétérinaires peuvent utiliser pour euthanasier le bétail, mais aux États-Unis on le donne aux condamnés à mort. Tiens, je lis ce matin dans le New York Times qu'hier au Texas, c'est au pentobarbital qu'a été exécuté John Gardner, qui avait tué il y a 15 ans sa femme Tammy. Oui, mais chez nous, dit L'Obs, des retraités rêvent au sort de l'assassin, ils commandent le médicament dans les méandres d'Internet et préparent leur fin ou organisent celle des autres. Un ancien prof de philosophie de l'université de Strasbourg a ainsi accompagné, il le raconte, l'épouse d'un universitaire atteinte d'un cancer de la moelle épinière. Je suis allé chez elle, j'ai délayé la poudre dans de l'eau, elle a embrassé son époux et a bu sereinement. Ses paupières ont papillonné, sa respiration s'est accélérée puis s'est arrêtée au bout de 10 minutes. L'automne dernier, notre justice, alertée par les Américains, a fait perquisitionner chez une centaine de retraités et a saisi le poison désiré. On lit tout ceci quand dans le Figaro littéraire, on me parle de suicider. L'écrivain japonais Mishima, dont sort un inédit drôlatique, l'histoire d'un homme qui rate son suicide, puis s'offre au fantasme de meurtre de ses contemporains. On parle aussi de Stefan Zweig, qui se tua quand il eut perdu l'Europe ravagée par le nazisme, mais qui se battit jusqu'au bout en écrivant. Pas de défaite pour l'esprit libre, c'est le titre du recueil de ses écrits politiques.
On parle d'engagement ce matin aussi.
Et la vie me raconte Guillaume Bourin, qui fut un gamin costaud et violent de Montreuil, qui repoussait Jésus qu'il avait au cœur pour devenir fumeur de cannabis, dealer, voyou, dénoncé, en cavale, arrêté, tolard. Mais à Fleury-Mérégis, il partage la cellule d'un gitan évangélique qui retrouve Dieu et sort de tôle avec l'argent qui lui reste, rafle dans une librairie un rayon entier de Calvin et de Luther. Guillaume Bourin est désormais pasteur à Montréal et doctorant en Ancien Testament. Allons, il faut donc regarder de belles figures. L'historien François Dos publie une biographie de Pierre Vidal-Naquet, historien lui-même de l'Antiquité, mais qui lutta contre les injustices de son temps. Il est bien raconté dans l'Humanité, mais surtout dans Libération. Petit garçon, Pierre Vidal-Naquet écoutait son père qui lui lisait Chateaubriand. Lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que mériter sa grâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. Le Monde, encore, raconte dans un superbe texte un héros nommé Jacques Bloch, cousin du grand historien Marc Bloch. Il avait la bonne tête d'un rouquin de 20 ans quand il participa, jeune résistant, à la libération de Guéret en 44 et y perdit un bras. Il fut alors capturé par les Allemands, torturé et déporté. Il survécut à Mauthausen où il écrivait des poèmes. Lorsque le soir, en m'endormant, le ventre creux, les pieds gelés, je ferme les yeux, doucement je pense et souris au passé. Jacques Bloch se souvient d'un médecin allemand qui voulut le soigner et qui, pour son humanité, fut tabassé et assassiné devant lui par la Gestapo. J'aimerais retrouver sa famille pour leur dire qu'il est mort, comme un homme doit mourir.
Il est aussi question de cinéma, Claude, dans la presse.
Et de simple beauté, et il faut cela, convenez-en après tout ça. Dans un numéro de combat contre la CGT qui ruine la France, Le Point abrite un magnifique reportage attendri sur la Fémis, l'école de notre cinéma d'auteur, vilipendée pour un supposé snobisme dont les étudiants, je le lis et le crois, savent fabriquer des films qui sont des bijoux. Au prochain concours d'entrée, les amoureux de cinéma qui veulent intégrer la Fémis devront disserter sur trois mots, le ciel, l'instant et la chair, et je nage donc un instant entre l'instant et l'éternité. Je lis dans l'Express, nouvelle formule qui se passe de fioritures, que l'on sait désormais par la technique fabriquée en 18 mois un whisky de 10 ans d'âge, en bombardant les rayons, les tonneaux de bois, ou en soumettant les barriques à des ultrasons. Une entreprise de la Nièvre est capable, je le lis dans le journal du Centre, d'imprimer un livre de 400 pages en 5 minutes. C'est un peu moins que la durée de cette revue de presse.
Un tout petit peu moins, mais un grand merci Claude Askelovitch. C'était la revue de presse.